This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir à Broadway pour une comédie musicale consacrée au 11 septembre. C'est notre spécialiste du genre, Laurent Vallière, qui nous en parlera. Nous serons également à Cannes où la compétition officielle a démarré. Eva Bettan, Corinne Pélissier étaient aux projections. La revue de presse des correspondants d'Inter, Omar Waman à Beyrouth, Frédéric Carbone à Washington. 18h55, Anthony Bélanger pour un édito sur l'Iran. L'Iran appelé aux urnes demain, mais tout de suite, une semaine de politique française sous les yeux de nos confrères et de nos consoeurs, surtout étrangères.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Ils ont couvert pendant des mois cette présidentielle qui a passionné le monde et c'est vrai que le millésime 2017 fut à plus d'un titre totalement inédit. Les jours qui viennent de s'écouler sont restés denses. Macron à l'Élysée dimanche, Philippe à Matignon lundi, le nouveau gouvernement nommé hier, le premier conseil des ministres ce matin et une promesse, celle de recomposer, c'est le verbe aujourd'hui employé, recomposer la vie politique française. Invité de France Inter, Mélissa Bell, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante ici à Paris pour CNN, Francesca Pierantozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante d'Il Messaggero, Suzanne Freitag, bonsoir.
Bonsoir.
Correspondante pour la chaîne ZDF en Allemagne. Elles étaient particulièrement soignées, on va commencer par parler un tout petit peu d'images, particulièrement soignées, rien n'a été laissé au hasard. Comment avez-vous reçu et perçu les images de la passation de pouvoir à l'Élysée? Là, je me tourne vers mes deux consoeurs journalistes pour la télé. Mélissa Bell, pour commencer.
On a suivi de très près parce que, et d'ailleurs lundi, pour la première fois, je n'ai aucun souvenir de ça, toute la presse américaine titrait sur Macron. Vraiment beaucoup d'intérêt aux États-Unis pour ce qui s'est passé, pour cette passation de pouvoir, pour l'idée qu'Emmanuel Macron représente finalement une autre réponse aux défis actuels que les populistes qu'on a vus aux États-Unis ou que les décisions populistes qu'on a vues au Royaume-Uni. Donc vraiment une passation de pouvoir suivie de beaucoup plus près que d'habitude.
Et les images très régaliennes, a-t-on dit, très républicaines, voire militaires pour la remontée des Champs-Élysées, celles-là aussi ont intéressé.
Oui, avec cette fois-ci cet homme jeune, plutôt beau à regarder, qu'on suivait très près, qui avait ce parcours très particulier. Donc effectivement, ce cadre lourd de signification d'un point de vue républicain, cette passation de pouvoir importante, où à chaque fois, c'est beaucoup de pouvoir qui est remis d'un homme à un autre, mais cette fois-ci, avec cette différence que c'est mis entre les mains d'un homme, finalement, qui a pris ce pari très personnel, qui devenait ce jour-là un pari, finalement, national. Va-t-il réussir à faire, avec toutes les attentes qui pèsent sur lui, ce qu'il a promis de faire et ayant dégagé du pouvoir ce qu'il tenait depuis si longtemps.
Comment avez-vous, Suzanne Freitag, pour le public allemand, diffusé, accompagné, surtout analysé ces images typiquement républicaines ?
Et typiquement français avec le militaire. Les Allemands, ils aiment bien regarder, ils ne feront jamais pareil, mais ils adorent ça. Et en plus, ils ont regardé de très très près, mais ça, ils l'ont toujours fait parce que le couple franco-allemand au sein de l'Europe, c'est quelque chose qui est très important, mais ce qui est aussi, on se le rassure à chaque fois qu'il y a quelque chose, un changement. Le couple franco-allemand, ça doit réussir, ça doit marcher. Et je ne me rappelle pas que c'était aussi chaleureux très très souvent. Parce que là, l'Allemagne entière était super soulagée. C'était quelqu'un qui s'était prononcé ouvertement pour l'Europe. Et c'était pas une populiste, pas l'extrême droite, où on a naturellement, par rapport à l'histoire, toujours très très peur qu'un pays voisin aussi proche que la France pourrait virer à l'extrême droite. Donc tout le monde était content, tout le monde a bien regardé. On a fait des reportages, beaucoup de reportages ces dernières semaines.
Et pour vous, en Italie, Francesca Pierantozzi?
Alors, moi, ce qui m'a vraiment frappé, moi, la première, c'est cette sens de familiarité, qu'on a cette connaissance, parce que je peux vous dire que jusqu'à maintenant, si vous demandez avant qui était le premier ministre français, comme ça, dans la rue en Italie, pas beaucoup de monde, ils vous donnaient le nom du président, oui, mais parfois, on pouvait faire une confusion. Là, vraiment, on a l'impression que la France est rentrée à la maison, qu'on regarde un petit peu des personnages familiers qui pourraient être presque au gouvernement. Et en plus, ce qui se passe en Italie, je ne sais pas ailleurs si c'est si fort, c'est cette maintenant envie de faire des comparaisons Alors, c'est peut-être un peu provincial, un peu italien.
Non, on fait
mais...
tous.
Même en France, voilà. On nous cherche à comparer.
Ah, ben voilà, Macron, c'est le nouveau Renzi, ou Renzi, c'est peut-être le vieux Macron. Ben. Et donc, il y a, je dois dire, on s'est approprié des personnages, et ils sont assez familiers, tant que hier, sur les journaux d'aujourd'hui, on voit vraiment presque toutes les têtes du gouvernement, même le
Ah oui, donc même le bloc Matignon, enfin Premier ministre, gouvernement, oui. Vous l'avez suivi et couvert.
Absolument, absolument. Je vous dis, avec toutes les petites têtes, voilà.
Ah oui, comme à la une de la presse, oui, oui. De la presse française.
Mais parfois, on a fait même plus de pages que la presse française. Donc, on est arrivé à une sorte d'obsession. Obsession française.
Et pour dire quoi, autant de pages?
On dit plein de choses.
Oui, non, mais ça, j'imagine. Mais si vous en faites plus que chez nous, alors vous dites quoi?
Oui, parfois plus que chez vous, le personnage, le petit côté, on fait le reportage. Quand il y a eu l'élection donc le 7 mai, il y avait plein d'envoyés spéciaux.
Et donc, Suzanne, vous avez suivi aussi pour la ZDF, donc pour le public allemand, toutes les passations de pouvoir?
Oui, un petit peu. On a montré les photos aussi selon leur disponibilité, parce qu'on ne pouvait pas être partout non plus. On n'est pas aussi nombreux que BFM TV qui suit tous les taxis et tout ça qui se baladent en Paris.
Et qui était quasiment dans tous les ministères.
On ne l'a pas fait, mais on a quand même présenté quelques personnages insolites, les gens très jeunes. Enfin, on a voulu aussi montrer, est-ce qu'il a réussi son pari, de montrer un autre gouvernement, un mélange de ces partis qu'il doit réunir maintenant et où il doit vraiment trouver le compromis de gouvernement avec la droite, la gauche, le milieu, des gens de partout. Et on a couvert ça hier et on a continué aujourd'hui, en fait.
Et vous avez dit que c'était quand même totalement inédit sous cette forme, parce que ça, on n'y est pas habitué à des gouvernements de ce genre en France, mêlant effectivement la gauche, la droite, des centristes.
Sarkozy l'a un peu fait quand même.
Oui,
aussi,
mais pas exactement de la même manière.
Il a même fait la pub pour.
Peut-être, mais c'est justement ce qui passionne de l'extérieur, c'est que finalement, dans le monde occidental, dans les démocraties, on est arrivé presque à un croisement où il est d'ailleurs Emmanuel Macron dans son discours d'investiture l'a dit. Il a parlé du fait que la géographie, c'était, j'avais la traduction en anglais, mais avait diminué de taille, que là, le temps s'avait accéléré en même temps. Donc il a fait référence à tous ces changements qui ont amené des décisions ou des gouvernements populistes dans le monde anglo-saxon, qui mènent à de l'immobilisme dans d'autres, qui mènent à un sentiment de crise finalement, qui suit le sentiment de crise économique, une crise politique, et de voir finalement cet effort d'Emmanuel Macron, cette volonté de casser finalement ce qu'étaient des codes, ce qu'étaient des façons de faire, ce qu'étaient des partis politiques, ce qu'était une structure qui était celle des 50 dernières années en France. Ça fascine. Et on a pas besoin d'être français pour y trouver une histoire assez extraordinaire et à vouloir suivre justement quelle sera sa capacité à aller jusqu'au bout de ce qu'il a décidé de faire.
Je reviens à vous Suzanne pour ce que vous avez dit sur la com. Vous pensez que c'est l'équivalent de ce qu'a fait Sarkozy en 2007 avec l'ouverture, avec une communication mieux faite 10 ans plus tard?
Non, je dirais pas, je me permettrai pas de juger les communications.
Non,
je dirais qu'il a fait de ça son programme. Il a fait de ça sa dernière démarche pour gagner aussi la dernière étape. Il a dû rassembler parce que sinon il serait pas arrivé où il en est. Ce qui montre aussi l'état dramatique dans lequel était le système politique français avec sa gauche, sa droite qui n'arrivait pas à se réunir. Nous en Allemagne c'est très différent parce qu'on a un gouvernement de grande coalition. Donc c'est quelque chose qui nous paraît pas extraordinaire. Mais en France, par contre, c'est le contraire. On se dit, oula, comment ils vont y arriver? Les gens qui ont l'habitude de se tirer dessus en permanence dans le même gouvernement.
Mais ça reste dans le cadre de partis politiques au pouvoir. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure de pont possible. On a beaucoup regardé Emmanuel Macron en se disant, nous les Britanniques, est-ce que c'est pas finalement un nouveau Tony Blair? Il y a quelque chose dans sa démarche d'essayer de trouver quelque chose un peu au centre qui dépasse les limites. Mais lui, il l'a fait du cadre de l'intérieur du Parti travailliste. Ce qui est nouveau avec Emmanuel Macron quand même, c'est qu'il dépasse ce cadre des partis qui ont tant de pouvoir. C'est ça qui est nouveau et qui est fascinant.
Comment avez-vous raconté cette grande coalition, pour reprendre le terme allemand, Francesca, vos lecteurs italiens?
Oui, ça c'est... Elle parlait de récit. Effectivement, c'est ça la première chose. C'est-à-dire que c'est un récit fascinant. Est-ce qu'il va casser les Républicains? Et demain, est-ce que le Parti Socialiste va... Donc, c'est effectivement, le récit est intéressant. Or, à niveau d'un gouvernement où il y a la droite, la gauche et le centre, moi, je refais du provincialisme. L'Italie, comme souvent, est un laboratoire très souvent pour le mal, parfois pour le bien. En tout cas, nous avons eu en 96 le premier gouvernement pro du où on allait. Moi, je disais toujours à mes amis français, vous savez, nous avons un gouvernement qui est soutenu. C'est comme en France, si on avait de Trichet à Georges Marchais. On avait le gouverneur de la Banque d'Italie, c'était Lamberto Dini, jusqu'à Bertinotti, la Fondation Comunista. Donc, nous, on a fait plus que le grand écart. On a fait le saut, le triple saut de la main. Mais ce qui fait Macron est inédit. Je ne veux pas du tout le diminuer. Je pense qu'en France, c'est vraiment une nouveauté. Oui,
Et est-ce que vous avez parlé et essayé de décrire quel type de personnalité était Nicolas Hulot?
C'est un peu plus difficile.
Comment vous en êtes sorti?
Normalement, on
s'en
sort.
Est-ce qu'il existe des ponts?
Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressemble?
Ça, c'est plus difficile. Ouais. Non, effectivement, ça n'existe pas. Lui, il fait vraiment partie de ce qu'on appelle, mais on peut mettre tout dedans, la société civile. En Italie, société civile, ça ne veut dire pas du tout ce qui signifie en France. Société civile qui était, disons, portée au pouvoir, de toute façon, l'actualité par le mouvement 5 étoiles, c'est surtout des gens, le professeur, l'enseignant, celui qui travaille à la poste. Ici, la société civile, c'est l'élite de la société civile. Donc, disons, mais Nicolas Hulot, c'était parmi les têtes qu'on a mis dans les journaux, société civile.
Et voilà. Il est connu en Allemagne, Nicolas Hulot? Vous avez dû, ramer pour décrire qui il était?
Non, pas trop, parce qu'on avait un tout petit peu parlé de lui quand il s'était présenté en tant que candidat lui-même. Et quand on dit écologiste et tout ça, en Allemagne, ça parle tout de suite, parce que, en fait, en termes d'homme politique, peut-être, en fait, c'est un peu difficile à voir, mais comme on a dit, bon, il y a des gens de la société civile, on a quelqu'un qui était médecin, on a quelqu'un qui était ex-présentateur de télé et défendeur de l'écologie et des choses comme ça. On ne l'a pas fait beaucoup plus que ça non plus, on n'a pas fait un portrait entier sur lui. Ça viendra peut-être dans les prochains jours quand on aura un peu plus décortiqué les discours et les premiers déplacements. Là, on a plus mis l'accès aussi sur les gens. C'est très germanophile, en fait, ce gouvernement. Il y a Bruno Le Maire qui parle très bien allemand.
Déjà,
il y a Sylvie Goulard qui est germanophone.
Edouard
il y a
Philippe,
en plus,
hein.
Il y a et il y a justement l'ex-ambassadeur à Berlin qui a quitté sa fonction là-bas pour être conseiller pour les affaires étrangères. Donc ça aussi, je pense que c'est un signe très clair vers l'Allemagne où il a dit qu'il veut vraiment renforcer ce couple et aussi vers une Europe. Et ça sera, il y aura des gens qui comprennent ce qu'un Allemand veut dire quand il dit quelque chose, parce que c'est pas la même chose que...
Une dernière question, malheureusement il nous reste très peu de temps. Est-ce que vos différents médias portent un intérêt toujours soutenu à ce qui arrive maintenant, à savoir les législatives, ou est-ce que vous avez replié la voilure et vous faites un peu plus léger? Mélissa Bell.
Nous, pour ce qui est de CNN, on est repassé un petit peu en politique interne, vu les déboires de Donald Trump en ce moment, mais ça reviendra. On garde notre 4L avec laquelle on a couvert l'élection présidentielle pour aller couvrir les législatives, puisque ce sera une mesure de sa capacité à gagner, à gagner son pari. Donc on y reviendra une fois qu'on sera plus en pleine crise de destitution possible à la Maison Blanche.
On va en reparler ça aussi dans quelques instants. Et pour vous en Allemagne, Suzanne, vous restez mobilisée pour les législatives?
Oui, je dirais même plus que les dernières élections, j'en ai couvert 5, mais qu'on a parlé des législatives déjà avant l'investiture du président, c'était relativement rare, parce que déjà le système est compliqué à expliquer aussi, qu'est-ce que ça représente, pourquoi il a besoin d'autres élections pour avoir un parlement après. Bon, chez nous c'est un peu différent, mais en tout cas on est déjà dessus, on a déjà regardé où sont des configurations qui vont être intéressantes dans les prochaines semaines, et la question qui est quasiment dans tous les articles et tous les récits, c'est est-ce qu'il va pouvoir gouverner? Et c'est pour ça que cette question-là, elle est vraiment au centre de tous les reportages.
Il y a un vrai doute en Allemagne sur la question?
En fait, on verra, on va dire. Ça dépend vraiment des résultats. On met pas... S'il a une majorité, il pourra. S'il n'en a pas, il ne pourra pas. Et on verra ce que ça donne, quelles conséquences ça aura. Mais on verra ça à ce moment-là, parce que sinon, on compliquera les choses.
Et pour les législatives, vous continuez la couverture large et ambitieuse?
Oui.
Vous en ferez plus que la presse française aussi?
Peut-être, ça on verra, mais c'est sûrement plus que les fois précédentes. Où les législatives, on ne savait presque pas ce que c'est, parce qu'en Italie, on dit les élections politiques. Déjà, il fallait expliquer qu'on dit législatif. Après, le système, c'est complètement absurde pour nous. Et là, je peux vous dire que les Italiens, non, ils s'intéressent, ils commencent à comprendre comment ça marche et qu'il peut y avoir des triangulaires. Ça, à chaque fois, ça prenait 3 lignes pour dire pourquoi il y a des triangulaires. voire des quadrangulaires. Mm-hmm. Donc oui, on continue absolument à suivre et les Italiens sont intéressés.
Eh bien, merci infiniment à toutes les trois. Mélissa Bell, correspondante pour CNN, Francesca Pierantozzi pour Le Messaggero et Suzanne Freitag pour la chaîne ZDF, la chaîne allemande. Merci encore. À suivre la revue de presse internationale.
The child crying all by himself. His parents left him by the time he was 12. He feels all alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrows and strife.
We get along.
The sun is coming with all of his might. I'll know, I know it'll be all right. Mm, yeah.
Through darkness and rain,
yeah.
Sorrow and pain,
we prove again and again and again.
We get along
through all of our lives.
We get along
through sorrow. It's right or wrong. I just know we got to get along. We got to and come together and come together and come together. Don't you know we got
Sharon Jones and the Dap Kings sur Inter, 18h34.
12 del día, 9 minutos en Brasil.
Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Washington, Frédéric Arbonne, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour, heure de chez vous. La revue de presse des correspondants d'Inter avant de filer à Beyrouth où nous attend Omar Waman. Direction Washington. Bonsoir Frédéric Carbone.
Bonsoir Nicolas.
Avant la revue de presse, Frédéric, un mot sur ce qui est en train de se passer en ce moment même à New York. Quelles informations avez-vous sur cette voiture de Times Square ?
Alors écoutez, ça se passe effectivement en plein centre de New York, à Times Square, à l'heure du midi. Il y a beaucoup de gens dehors, c'est une très belle journée aujourd'hui à New York. Une voiture qui a foncé dans la foule sur un trottoir tout près de Times Square, à deux pas aussi d'un commissariat de police de New York. Le bilan provisoire, hein, ça s'est passé il y a trois quarts d'heure environ, c'est 13 personnes blessées, soignées pour des blessures. Certains médias évoquent une personne décédée. Le gouverneur de New York se rend immédiatement sur place. Sur les raisons, Nicolas, il faut être assez prudent, il me semble. Plusieurs chaînes américaines, en tout cas les réseaux new-yorkais de plusieurs chaînes américaines, évoque des informations venues de la police de New York disant que cela ne ressemble pas à une attaque terroriste. Voilà, restons prudents. Une personne a été arrêtée, le conducteur du véhicule que l'on a vu sur des images de télévision menotté et pris par la police. Mmh. Les premières informations relayées par des chaînes américaines disent plutôt quelqu'un qui aurait perdu le contrôle de son véhicule. Nicolas, restons extrêmement prudents, ça s'est passé il y a une demi-heure, trois quarts d'heure à peine.
Et on fera évidemment avec vous un nouveau point, Frédéric Carbone, dans le journal de 19h, le journal de Sébastien Legénie. Venons-en maintenant, Frédéric, à cette semaine épique où la presse américaine aura été à la hauteur de sa réputation. Washington Post, New York Times, en 24 heures, deux scoops qui ébranlent la Maison Blanche.
Absolument. Et dans ce monde des réseaux sociaux, des sites internet, des fake news, ce sont effectivement les piliers de l'investigation américaine qui ont relancé la tempête, les informations classifiées partagées avec les Russes pour le Post, la potentielle obstruction de justice par Donald Trump par le New York Times. Et au terme de cette semaine folle, parfois, un bon dessin en dit plus long que tous les éditoriaux. Alors, je vais essayer de vous en décrire deux à la une des magazines américains. Vous avez d'abord le New Yorker qui illustre l'origine de la crise. On est dans la carlingue d'un avion et le directeur du FBI, James Comey, est violemment expulsé de l'appareil, traîné à terre par Donald Trump et son ministre de la Justice. Vous l'avez compris, Nicolas, c'est l'histoire de ce passager qui avait pourtant son billet et qui a été de la même manière mis dehors d'un avion de la compagnie United Airlines. Et puis, de la même manière, sans le moindre titre, mais tellement parlant, Time Magazine, qui aujourd'hui illustre son numéro avec ce que l'on pourrait appeler la Maison Rouge, moitié Maison Blanche, moitié Kremlin. Esthétiquement, c'est assez réussi. Politiquement, c'est dévastateur. Et effectivement, le point commun de toutes ces affaires qui embrasent la présidence Trump en ce moment, c'est qu'elles impliquent la Russie.
Et sur le dossier russe, donc, précisément, une enquête indépendante va pouvoir démarrer. Comment la presse réagit à cette perspective, Frédéric ?
Écoutez, de façon à peu près aussi unanime que la classe politique américaine, hormis Donald Trump évidemment, c'est une très bonne décision. Et le choix de Robert Mueller, ancien directeur du FBI, est le bon. Le Wall Street Journal salue par exemple enfin une décision bienvenue. C'était essentiel et rassurant après des événements alarmants. Mais le Washington Post suggère d'aller plus loin. Tout cela, écrit le journal, ne doit pas exonérer le Congrès de ses responsabilités. Et une vérité incontestable ne peut héberger que si le Congrès nomme une commission spéciale. Comme après les attentats du 11 septembre, la presse décrit en tout cas Robert Mueller comme un homme qui n'a pas l'habitude d'enterrer des dossiers et qui trouve en général ce qu'il a cherché.
Et puis les journaux décrivent, Frédéric, l'atmosphère à la Maison-Blanche, elle est crépusculaire.
C'est effectivement l'aspect le plus frappant de cette période. Une scène est notamment racontée par le New York Times. On est mardi soir, juste après les révélations, sur la rencontre entre Donald Trump et James Comey. Les journalistes qui sont en permanence à la Maison-Blanche entendent des éclats de voix bruyants, des cris venus de bureaux de la communication de Donald Trump. Et soudain, le son de la télévision monté au maximum pour couvrir ces hostilités verbales. Ce qui est décrit, Nicolas, ne ressemble pas à un début de règne où l'on tâtonne, comme c'est normal dans toute administration, mais ça ressemble plus à une espèce de fin de règne. Et vous avez même désormais des conseillers de Donald Trump qui, de façon évidemment anonyme, ne cachent plus à quel point il peut être usant et décourageant de travailler avec ce président qui ne se discipline jamais.
Alors, quel scénario désormais, Frédéric ? Tout le monde pose la question, j'imagine, chez vous, de l'impeachment ?
Oui, la petite musique est devenue insistante, en restant toujours quand même largement hypothétique, mais elle n'est pas la seule. Voilà par exemple le point de vue intéressant de Ross Douthat. Il est l'éditorialiste républicain de New York Times, à peu près le seul. Et lui, il évoque une autre possibilité, l'article 25 de la Constitution. Le président américain, on pourrait dire, déposé par son propre cabinet sur la base d'un constat d'incapacité à gouverner, violent. Plus rapide aussi qu'une destitution, plus adaptée aussi selon cet éditorialiste à une situation où il y a autant d'amateurisme et d'absence de contrôle et de conscience des réalités que de preuves de corruption ou de mensonges. On n'en est pas là, Nicolas, et tous les républicains, avant de se retourner éventuellement contre le président, penseront longuement à leurs électeurs.
Frédéric Carbone à Washington, merci. Direction Beyrouth maintenant, où nous attend Omar Waman à la une de la presse libanaise. Omar, le sommet de Riyad en Arabie Saoudite où Donald Trump est attendu samedi.
Oui, le président américain est très très attendu dans la région, d'autant que c'est son premier déplacement à l'étranger depuis son élection. On apprend dans le Mustaqbal, quotidien arabophone qui consacre sa une à cet événement, que Michel Aoun ne fera pas le déplacement en Arabie Saoudite. Le président libanais sera représenté par son premier ministre Saad Hariri. Le Daily Star parle d'exclusion et de citer plusieurs députés libanais très en colère qui déclarent que l'absence de Michel Aoun à ce sommet, auquel près de 50 dirigeants de la région vont participer, est la conséquence de l'échec de la politique étrangère du Liban.
Et alors que cache la décision d'inviter Saad Hariri et pas Michel Aoun, Omar ?
C'est également la question que se pose L'Orient le jour, alors que Donald Trump devrait insister dans son discours également très attendu de dimanche sur l'engagement des États-Unis au Moyen-Orient. Eh bien, selon le quotidien francophone qui tente de trouver une explication, l'Arabie Saoudite serait en fait mécontente des récentes positions qu'elle juge trop clémentes adoptées par le président libanais au sujet du Hezbollah et de l'intervention militaire du parti chiite en Syrie aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Riyad considère donc que Michel Aoun est trop proche de l'Iran ennemi juré des Saoudiens et l'aurait donc exclu de ce sommet. Une décision hasardeuse selon le leader druze libanais Walid Jumblat, toujours dans l'Orient le jour. Si l'objectif principal de la démarche américaine, souligne-t-il, est de réduire l'influence iranienne dans la région, le Liban pourrait en faire les frais si Téhéran décidait pour la contrecarrer, d'embraser le front du sud du pays, près de la frontière avec Israël, par l'intermédiaire de ce même Hezbollah.
Et puis la presse libanaise, Omar, consacre également de nombreux articles à la bataille de Mossoul qui est entrée dans sa phase finale.
Une bataille lancée il y a 7 mois et aujourd'hui les djihadistes de Daesh sont totalement encerclés, acculés dans un réduit de 10 km². Les autorités irakiennes espèrent annoncer la libération de la ville avant la fin du mois. Et l'Orient le jour de consacrer un beau reportage sur des déplacés chrétiens originaires de la ville de Karakoche aux portes de Mossoul. Une famille comme tant d'autres qui a dû fuir la terreur djihadiste il y a 3 ans et aujourd'hui à l'abri à Souleymaniye dans le Kurdistan irakien. Manar, mère de 2 filles, raconte qu'elle ne veut pas dans l'immédiat retourner à Karakoche, pourtant libérée de Daesh, car sa maison, dit-elle, a été utilisée par les djihadistes pour le viol de dizaines de jeunes filles yézidis. Au mois d'octobre dernier, elle avait pu se rendre sur place après le départ des islamistes ultra-radicaux. Elle avait trouvé dans plusieurs pièces des vêtements traditionnels pour femmes yézidis, la preuve de la présence de ces filles enfermées et réduites à l'esclavage sexuel. Comment voulez-vous que je revive dans un endroit où tant de personnes ont souffert, demande Manar, dont le frère est toujours prisonnier de Daesh, quelque part entre la Syrie et l'Irak.
Omar Waman à Beyrouth, merci.
24 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Un jour dans le monde, reportage. Chaque mois, des Tunisiens sont arrêtés par la police parce qu'ils sont homosexuels ou soupçonnés de l'être dans un pays où la sodomie est punie de 3 ans de prison et où les personnes arrêtées subissent un examen anal dans le seul but de les humilier. Si on ajoute à cela les pressions familiales, sociales, professionnelles, scolaires, on imagine à quel point le quotidien des gays, des lesbiennes et des transsexuels est difficile en Tunisie. Dans ce contexte, les associations LGBT, née après la révolution de 2011, s'organise. Elle s'organise pour apporter de l'aide et des conseils à ceux qui en ont besoin. Il y a bientôt 2 mois, l'association Shams a ainsi créé une permanence téléphonique ouverte 7 jours sur 7 où Justine Fontaine, pour France Inter à Tunis, s'est rendue.
Tout se passe dans les locaux de l'association à Tunis, des bureaux dont Shams ne veut pas dévoiler l'adresse pour des raisons de sécurité. Toute la semaine, l'après-midi et le soir, 2 ou 3 personnes se relaient pour répondre aux coups de fil. Ce soir-là, c'est Ashref, un jeune homme d'une 20aine d'années, qui répond au téléphone. Il est 21h passé. Une jeune femme appelle pour demander des conseils.
Elle s'est disputée avec sa famille parce qu'ils ont découvert qu'elle était lesbienne. Et sa mère l'a obligée à arrêter ses études et à quitter la maison. Alors maintenant, elle habite chez une amie, mais elle a peur que cette amie n'accepte pas qu'elle reste trop longtemps chez elle. Donc elle ne sait pas où aller après. Elle ne sait pas quoi faire.
Pour l'instant, les appels sérieux comme celui-ci ne sont pas très nombreux, quelques-uns chaque semaine entre 2 coups de fil malveillants. Mais selon Shams, les demandes sont un peu plus fréquentes depuis que les permanences ont commencé fin mars. Avant cette date, les membres de l'association répondaient au téléphone au coup par coup. Bourdit Belhedi, chargée de communication de Shams, l'a fait de nombreuses fois.
Avant, on reçoit des appels de la part des personnes LGBT pour s'exprimer, pour juste parler. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas étant des homosexuels, donc ils nous appellent pour demander des informations par rapport à l'identité et l'orientation sexuelle. Et on a reçu des appels de la part, par exemple, des parents des personnes LGBT pour demander des informations par rapport à l'identité et l'orientation sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce genre de questions, pour la comprendre.
D'autres associations de défense des droits des LGBT sont joignables par téléphone pour une assistance juridique ou psychologique, mais elles n'ont pas forcément les moyens de mettre en place une permanence téléphonique à proprement parler, notamment le soir. Si Shams a pu le faire, c'est grâce à un financement de l'ambassade des États-Unis. L'argent a en partie permis d'embaucher et de former les écoutants pour qu'ils passent d'une démarche personnelle, militante et souvent bénévole à une approche psychologique plus professionnelle. Rim Ben Ismail, présidente de l'association Psychologue du Monde Tunisie, a supervisé cette formation.
On a trouvé des personnes qui finalement ont été un peu le réceptacle de beaucoup de souffrances des autres, sans avoir eu d'encadrement pour eux-mêmes et sans avoir eu de temps pour prendre la distance suffisante pour pouvoir s'occuper des autres. Donc en fait, ils sont souvent soumis à des situations extrêmes, on va dire. Et ça nous a paru très important de passer avec eux le temps qu'il faut pour pouvoir amener ces personnes à prendre un peu de la distance et ne pas souffrir ultérieurement des conséquences qui pourraient survenir de ce type d'engagement.
Aujourd'hui, 2 mois après la mise en place de la permanence téléphonique, les écoutants continuent d'apprendre leur travail au fur et à mesure des appels. Dans un pays où aucune association LGBT n'existait officiellement avant 2011, Bourdit Belhedi est en tout cas convaincu que cette permanence répond à une réelle demande.
Vraiment, c'est un besoin, surtout de créer un espace libre pour les personnes LGBT, parce que les personnes LGBT, ils sont toujours rejetées par la société, ils ne trouvent pas d'espace pour exprimer leurs problèmes ou pour parler de leurs problèmes, et surtout avec le rejet social.
Un peu plus tôt ce mois-ci, 4 personnes ont été arrêtées à Sousse, une grande station balnéaire à 2 heures de Tunis, pour des soupçons d'homosexualité.
Voilà pour ce reportage en Tunisie, signé Justine Fontaine. Je vous rappelle que l'homophobie est ce soir à 19h20, le sujet du téléphone sonne. Questions et témoignages, 01 45 24 7000, 18h47.
On a une réception dans une demi-heure, alors allez tous vous habiller.
Et voilà.
Good morning, it's great to stay up late, good morning.
Un jour,
good morning
dans le monde, sur France Inter.
Et dans quelques instants, direction Cannes, où nous retrouverons Eva Bétan et Corinne Pellissier. Après ce détour par Broadway, où une comédie musicale revient sur le 11 septembre, elle se place du point de vue des milliers de passagers qui ont dû atterrir d'urgence le jour de l'attentat, quand l'espace aérien fut totalement bouclé. Come From Away a obtenu cette semaine à New York le prestigieux prix de la meilleure comédie musicale de l'année. Elle figure aussi parmi les favoris aux Oscars du théâtre, les Tony Awards. Laurent Vallière a assisté au spectacle.
Ils sont 12 acteurs sur scène dans un décor boisé. Ils incarnent à la fois les passagers de l'un des 38 vols qui atterrit d'urgence à Gander ce 11 septembre et les habitants à l'accent prononcé de cette toute petite bourgade de Terre-Neuve au Canada. C'est en 2010 qu'un couple de Canadiens, David Hein et Irène Sankoff, se mettent à faire de cette histoire qui les avait touchés une pièce de théâtre musical.
Il y a 9000 habitants à Gander, à Terre-Neuve. La population a donc doublé durant 5 jours. Les passagers étaient accueillis à leur sortie d'avion, emmenés dans les établissements municipaux, les églises, les écoles. Et puis les habitants venaient les voir et leur disaient « Vous n'avez pas l'air à l'aise, venez donc chez moi ». Ils les laissaient prendre une douche, laver leurs vêtements, leur préparer leur repas. En tant que Canadiens, nous connaissions cette histoire et on était fiers de ça. Et on voulait la raconter. Mais nous habitions aussi à New York le 11 septembre 2001. Et quelque chose résonnait avec ce que nous avions vécu ici, la gentillesse envers les gens. On l'a vécu aussi ici à New York.
Pour écrire cette comédie musicale, les 2 auteurs-compositeurs font le travail de journalistes.
On a passé 1 mois à Terre-Neuve pour recueillir des témoignages. On est ensuite rentré, on avait des milliers d'histoires. Tout était plus touchantes les unes que les autres. On a rencontré le maximum de gens et on a continué à échanger avec des passagers à travers le monde.
Parmi les personnages les plus touchants, il y a cette mère inquiète pour son fils pompier à New York, ce chauffeur de bus canadien qui interrompt sa grève pour aller chercher les passagers, ou une commandante de bord à qui revient l'une des plus belles chansons. Un personnage inspiré par Beverly Bass, qui a assisté au spectacle des dizaines de fois.
La capitaine Beverly Bass est la première commandante de bord femme du circuit commercial aérien américain. Elle a aussi fait atterrir son avion à Gander. Durant ces jours, elle a non seulement perdu des amis et des collègues, mais elle a vu son industrie menacée et utilisée comme une arme.
Hello, it's me again. Come From Away replonge enfin dans ce début du 21e siècle, lorsque le portable n'était pas relié à Internet. Enfermés 28 heures dans un avion cloué au sol, les passagers apprennent les attentats en sortant de l'avion.
De nombreux pilotes ont choisi de ne rien dire à leurs passagers. Ils ne savaient pas qui était à bord. Ils ne savaient pas quelle information ils pouvaient ou non partager. Et puis, il était de la responsabilité des équipages de veiller au calme des passagers en leur disant que c'était un simple arrêt de routine.
Alors pourquoi en faire une comédie musicale ? D'abord parce que la musique de Terre-Neuve illustre parfaitement la mentalité des habitants. Pour les deux auteurs-compositeurs, David Hein et Irène Sankoff.
Tout le monde nous dit que ce serait une idée vraiment moche de faire une comédie musicale autour des attentats du 11 septembre. C'est pour cela qu'on l'appelle plutôt une comédie musicale sur le 12 septembre.
La musique nous aide à raconter l'histoire. Ça permet d'aller vite d'un personnage à un autre, d'une scène à l'autre. Ça nous permet de faire des coupes rapides comme au cinéma.
Le premier ministre canadien Justin Trudeau est venu assister au spectacle, accompagné par la fille du président américain. Il a félicité les habitants de Terre-Neuve. Les prix commencent à pleuvoir et le public new-yorkais ressort particulièrement ému par ce qui devient une fable politique.
La musique était vraiment formidable et c'était incroyable de voir comment les gens de Gander n'acceptaient pas les remerciements ou l'argent.
C'était un show formidable, une belle expérience. On découvre qu'il y a encore de l'humanité dans le monde. Peu importe la couleur de votre peau, votre religion, votre ethnie, c'était des gens qui étaient en détresse et qui avaient besoin d'aide. C'est exactement le message à faire passer actuellement.
Voilà, Come From Away, reportage sur cette comédie musicale de Broadway signée Laurent Vallière. On file maintenant à Cannes, la compétition a commencé avec la projection de deux films en lice donc pour la Palme d'Or. Le premier s'intitule Faute d'amour, il est russe, il est très dur, Eva Bétan.
Il y a une sorte de pénurie en quelque sorte de cinéastes russes en ce moment. On ne voit quasiment que Zviagintsev. Il incarne d'une certaine manière à son corps défendant la Russie. C'est pas du cinéma de Brulot, mais il nous dit des choses. Léviathan, il nous parlait d'une sorte de corruption. Dans ce film qui s'appelle Faute d'amour, il nous montre ce que c'est qu'une classe moyenne. Il nous montre l'indigence des services publics, de la police par exemple, dans ce film. Mais c'est avant tout un conteur. Cette histoire est à la fois russe, parce que cette dureté des rapports humains est probablement russe, mais elle est universelle. C'est comment on est de plus en plus insensible. Un couple est en train de divorcer, chacun est en train de refaire sa vie, et leur petit garçon de 12 ans, il dérange, et personne ne veut le garder. Ils font pas la garde partagée, non. Ils veulent le mettre dans un internat qui ressemble à un orphelinat, et la mère dit, ça le préparera pour l'armée. C'est ce monde-là. Écoutez l'actrice qui joue cette mère très belle et monstrueuse, Mariana Spivak.
Pour
résumer simplement, l'enfant était le problème disparaît, tout est résolu. Mais ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Parce que lorsque l'enfant disparaît, les parents réalisent que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent ni ce dont ils ont besoin. Et évidemment, cette disparition change la vie de chacun, mais pas seulement les personnages principaux, mais absolument tous les personnages du film. Donc, je dirais que ce film sur la faute d'amour, c'est avant tout un film qui pousse les gens à s'observer eux-mêmes, à comprendre ce qu'ils font éventuellement de mal et à s'arrêter à temps.
Ça, la puissance des contes. Il y a une scène dans ce film qui me fait aussi peur que la mort de la mère de Bambi.
Voilà, Faute d'amour, donc, vue et analysée par Eva Bétan. Et puis le réalisateur américain Todd Haynes est de retour sur la croisette où ses films Carole et Velvet Goldmine ont déjà reçu des prix. Il est en lice avec un film qui met en scène cette fois-ci des enfants, Corinne Pellissier.
Le film Wonderstruck, le cabinet de curiosité en français, c'est dans cette petite pièce secrète du Muséum d'histoire naturelle de New York que l'on va suivre les aventures de Ben, un garçon de 12 ans depuis peu orphelin, qui a fui la maison de sa tante dans le Minnesota pour dénouer le mystère de ses origines et rencontrer son père qu'il n'a jamais connu. Son seul indice, un morceau de papier retrouvé dans un livre qui l'a conduit jusqu'à New York. On suit en parallèle une autre histoire, en noir et blanc, cette fois située à 50 ans d'écart, celle de Rose qui a décidé elle aussi de quitter sa famille. Les années 70 contre la crise de 29, deux moments forts de l'histoire de l'Amérique à travers le parcours de ces deux enfants, sourds tous les deux. Un film fort sur la puissance de l'imaginaire de l'enfance et le pouvoir du langage, Todd Haynes.
La plupart des enfants sont attirés par les histoires d'orphelins, même ceux qui vivent dans les familles heureuses. Ils ont tous quasiment ce même fantasme de quitter le cocon familial pour sauter seul à pieds joints dans l'inconnu. Mais il faut une certaine dose de courage pour accepter de se confronter à la solitude et au danger avant d'en arriver là. Mais le vrai sujet du film, à travers ce point, c'est ce langage que vous êtes capable de vous inventer, comme une langue codée. Et si ça marche, tous les handicaps d'un coup sont surmontés. Toute la structure du film repose sur des oppositions de langage. C'est incarné par ces deux périodes très différentes, presque en conflit. L'optimisme d'un côté, avec le potentiel économique des années 20, et le dynamisme de la ville de New York avant le crash de 29. De l'autre, cette même ville en décomposition et à l'économie en berne.
Voilà, un récit très dense, assez complexe, où les questions, comme souvent chez Todd Haynes, de transmission. C'est la comédienne Julianne Moore dans le film qui jouera en quelque sorte ce rôle de passeur. Beaucoup de flashbacks, une forme de narration presque expérimentale, le noir et blanc, la couleur et quelques artifices supplémentaires dont on ne dira rien, mais qui provoquent vraiment de réelles émotions. Wonderstruck est une histoire adaptée d'un roman graphique de Brian Selznick, l'auteur d'Hugo Cabret. Pas étonnant du coup que l'on retrouve à certains moments du film la même atmosphère et le même univers esthétique.
Corinne Pellissier à Cannes, il est 18h56.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito d'Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On file en Iran, l'Iran qui vote demain pour élire son nouveau président. Une élection, Anthony, plus serrée que prévu.
Et oui, on pensait, vu de loin, que l'actuel président, vous savez, Hassan Rouhani, allait être élu dans un fauteuil, et l'on avait tort. Alors, un petit rappel, Hassan Rouhani achève son premier mandat de 4 ans. Il reste le favori tout de même de cette élection, et ce, pour plusieurs bonnes raisons. C'est sous son mandat qui a été signé en 2015, le fameux accord sur le nucléaire qui signait le retour de l'Iran sur la scène diplomatique et surtout pétrolière mondiale. Et puis en échange d'un contrôle accru de son programme nucléaire, eh bien Téhéran voyait graduellement lever les sanctions qui pesaient sur son économie. De plus, vous savez, après deux mandats nationalistes et crépusculaires d'Ahmadinejad, celui qui voulait rayer Israël de la carte, eh bien l'élection de Rouhani a été celle d'un modéré, autrement dit pour la jeunesse citadine, la promesse de plus de liberté.
Et j'imagine que si l'élection est plus serrée, Anthony, que prévu, c'est parce que ces promesses-là n'ont pas été tenues.
Eh bien, écoutez, Hassan Rouhani, c'est un peu François Hollande, si vous me permettez cette comparaison totalement anachronique, mais qui permet de comprendre le dilemme des Iraniens. Monsieur Rouhani a certes obtenu la levée d'un certain nombre de sanctions et plutôt bien géré la sortie de crise, mais la courbe du chômage ne s'est toujours pas inversée. Autrement dit, le pays croît de l'ordre de 6% l'an, mais pour le moment, une grande partie de la population n'a pas encore touché les dividendes de cette amélioration. Sur le fond de la liberté d'expression, eh bien de circulation ou même simplement vestimentaire, ces résultats sont encore plus maigres, constamment harcelés par les conservateurs. Il n'a pas pu desserrer l'étouffoir religieux et moral qui pèse sur la jeunesse. En clair, comme François Hollande, Hassan Rouhani a déçu les pauvres qui voulaient du travail et les citadins qui espéraient plus de liberté. Le seul avantage énorme dont il dispose, c'est qu'il n'y a pas d'Emmanuel Macron iranien, vous savez, pour le ringardiser, le sortir du jeu.
Il y a par contre une sorte de Marine Le Pen locale sur sa droite.
C'est exactement ça. Il s'appelle Ebrahim Raisi. C'est un populiste conservateur qui tente de jouer la carte du peuple contre les élites. Il a par exemple promis de tripler les aides aux plus pauvres, s'adressant directement aussi, vous savez, à l'Iran rural, périphérique, oublié et donc très pieux. Lui aussi est un religieux. Il porte même, vous savez, le ruban noir des descendants du prophète. C'est donc un Sayed et ça compte là-bas en Iran. De plus, il a été procureur général, une façon à peine déguisée d'opposer sa droiture d'ancien magistrat à la corruption supposée des élites, alors qu'il a surtout envoyé à la mort dans les années 80 des centaines d'opposants. Maintenant, a-t-il de vraies chances d'être élu? Disons qu'Hassan Rouhani part avec une longueur d'avance. Le plus vraisemblable est que personne ne sera élu au premier tour et qu'un second tour entre les deux hommes sera organisé la semaine suivante.
Dernière question, le président iranien a-t-il vraiment du pouvoir?
Oui. Et non, vous me connaissez maintenant. Oui. Il faut comprendre qu'en Iran, toutes les institutions auxquelles nous sommes habitués, parlement, présidence, justice, sont doublonnées par des institutions religieuses qui les contrôlent et peuvent à tout moment les contredire. Au sommet, c'est le guide suprême, Ali Khamenei, qui a donc le dernier mot. Alors ça ne signifie pas que le président élu donc est sans pouvoir. Il établit en fait, par son élection, un rapport de force plus ou moins favorable. Or, c'est très important dans un pays extrêmement jeune, la moitié de la population iranienne, pour vous dire, à moins de 20 ans, où les équilibres sociaux, économiques, voire ethniques et religieux sont très très difficiles à maintenir. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre.
Anthony Bélanger, merci. Un mot du téléphone sonne à 19h20 qui sera consacré ce soir à la lutte contre l'homophobie. 01 45 24 7000.